franceinter.fr.
On n'oublie pas d'où on vient, quoi. Genre, si on vient de Forbach, on s'en souviendra toute notre vie, quoi. Mais je veux dire, ouais, on veut tous partir autre part.
Les filles, vous m'entendez?
Please, I need help.
Oh, je déconne.
Allez. Una are two.
We're gonna be fine.
Say it again.
Una are to vous.
We're gonna be fine.
Don't go away, Tom.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Ne pas chercher à se souvenir, oublier plutôt que de penser, ne pas raconter, dit-il, c'est la maladie du siècle. Alors, pour la vaincre, cette maladie, il est revenu pour confronter l'enfant qu'il était à l'adulte qu'il est devenu. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue aux habitants de Forbach et à tous et à toutes.
30 ans après avoir quitté Forbach en Lorraine, il revient filmer ceux qui sont restés entre démons de l'extrémisme et déterminisme social. Comment vivent-ils? Bonjour Régis Soder.
Bonjour Christine, bonjour Laurent.
Retour à Forbach, votre film explore passé et présent, les puits de mine fermés, le chômage, la peur de l'autre, la montée du FN et surtout le sentiment d'abandon. Retour à Forbach sort mercredi prochain. Face à vous, une femme tout aussi engagée, elle, pour la condition des femmes palestiniennes et contre le joug patriarcal. Elle s'appelle Maïssa Loun Hamoud. Résultat, un film grave et léger, politique et sensuel à la fois. Je danserai si je veux. Cette belle découverte est sortie mercredi. À ses côtés cette semaine, une perle noire, The Young Lady. Un geste singulier, pas comme des loups, un inédit Taipei Story où se document à voix haute la force de la parole.
Les vrais acteurs, moi je trouve ça con, je les méprise. C'est vrai, vous leur dites de pleurer, ils pleurent, vous leur dites de rire, ils rient, vous leur dites de marcher à quatre pattes, ils le font, enfin, je trouve ça grotesque. Ce ne sont pas des gens libres. Je suis sûr que tu demandes à un acteur de dire que les acteurs sont cons, il le fait.
Jean-Luc Godard ne sera pas à Cannes cette année, enfin si, il y sera sous les traits de Louis Garrel, dans le redoutable de Michel Hazanavicius dont on vient d'entendre la bande-annonce. Hazanavicius, l'un des trois Français de cette compétition annoncée jeudi par Thierry Frémaux. À côté donc de lui, François Ozon, Jacques Doyon, Desplechin, lui, ouvrira le bal. Une 70e édition anniversaire et en même temps, pas mal de renouvellements. Les grands, les habitués n'étaient pas prêts, Laurent, et oui. Les grands. Il y a quand même Haneke qui est prêt, le russe Diaghinsev. Et l'inévitable Naomi Kawase.
Hélas, pardon, qu'est-ce que j'ai raconté? Godard sera peut-être là, parce qu'on n'a pas encore de la critique, on n'a pas la quinzaine des réalisateurs, on n'a pas la CID. Donc il y a trois sélections encore à venir, et peut-être que Godard est dans une de ces trois-là. On l'espère, en tous les cas. Non, il faut dire aussi qu'il y a une belle sélection documentaire, et singulièrement française, avec quand même Varda de Pardon-Lanzmann, c'est un beau trio trio de tête. Et puis, ce qui me réjouit, c'est qu'il y a deux films, un en compétition et l'autre en sélection, de Hong Sang-soo, le coréen, voilà, qu'on aime beaucoup.
Sinon, dans cette compétition, il y a quand même, il y a deux femmes, Lynn Ramsey et Sofia Coppola.
Oui.
Il y a Robin Campillo, dont on attend vraiment le film sur l'histoire de ACT UP. Il y a le retour de Fatih Akin. Il y a Todd Haynes.
On a parlé de Doyon aussi, Jacques Doyon.
Non.
Pour Rodin, avec Vincent Lindon. Attendu aussi, bien sûr.
Et tandis que c'est Mathieu Amalric qui ouvrira un certain regard avec son film sur Barbara. Et dans un certain regard, un autre Français, Laurent Cantet. En séance spéciale également, Al Gore.
Oui.
Et hors compétition, à côté de Varda et JR, John Cameron Mitchell. Cannes, entre les présidentielles et les législatives, 70e édition, du 17 au 28 mai.
Rendez-vous.
Le pavillon de mes parents a été cambriolé à l'automne 2015. Tout a été renversé, mais rien n'a été volé. Même les voleurs ne veulent pas de ces faux bijoux, de ces pièces d'anciens francs, du service à raclette ou des chemisiers camailleux de ma mère.
Tu veux que je fasse chauffer de l'eau pour une infusion ?
Je filme.
Moi aussi, adolescent, je n'en voulais plus de ce décor-là. Des meubles Conforama, des imitations tapis d'Orient, de la moquette au mur, des fausses dorures. J'avais honte de mon milieu. Je voulais ressembler à ceux que j'avais rejoints dans le haut de la ville. Les fils d'ingénieurs, de médecins, de pharmaciens avec qui je partageais mon lycée. J'ai quitté Forbach il y a plus de 30 ans. Mais Forbach ne m'a jamais quitté. Et je reviens avec le souvenir de ces sentiments qu'on ne dit pas.
Revenir à Forbach, ex-fleuron des Houilles du bassin de Lorraine dont vous êtes originaire, Régis Soder, petit-fils de mineur, filmé, je le disais, ceux qui sont restés. Le déclic aurait eu lieu en mars 2014, au moment des élections municipales, lorsque le FN arrive en tête au premier tour. Et là, vous ne filmez pas encore, mais vous écrivez cet édito dans Libération qui commence ainsi. Qui voudrait d'un héritage comme le mien? Que s'est-il passé dans votre tête? Une explosion?
Cette prise de parole, c'est effectivement un peu sous le coup de la colère. Effectivement, l'arrivée de Florian Philippot aux élections municipales au premier tour, ça a été pour moi la nécessité de revenir avec une caméra pour faire ce que je sais faire, des films, et essayer effectivement de revenir vers cette contrée de moi-même, comme l'évoquait Jean Genet, cette partie de moi qui m'avait jamais vraiment quitté, effectivement, et interroger les gens qui sont restés, et essayer de travailler sur la mise en commun de notre héritage. Et l'héritage, c'est effectivement l'histoire, c'est les expériences qu'on a tous traversées, et effectivement, c'est mettre en regard ce récit avec ce qu'est devenu la ville.
Et il y a une concomitance incroyable, c'est que la maison de vos parents est vendue à ce moment-là, et vous arrivez à filmer les restes d'une vie.
Et d'abord cambriolé,
oui.
Puis vendu. C'est quand même, c'est lourd. Hein. Vous auriez écrit un scénario de fiction, vous l'auriez pas trouvé celle-là.
Mais c'est la magie du documentaire. C'est justement quand j'ai commencé à filmer, j'avais pas du tout prévu qu'on allait se séparer de cette maison. Et en fait, j'ai filmé pendant 3 ans et j'ai été rattrapé à la fois par mon histoire intime, l'histoire de ma famille et donc la séparation avec cette maison, et aussi par le bruit du monde, ce qui s'est passé, les attentats, l'état d'urgence, la fermeture des frontières. Au début, j'avais songé effectivement travailler sur cette frontière. Moi, j'ai vécu enfant à côté de la frontière qui était fermée. Puis cette frontière s'est ouverte et j'avais jamais imaginé qu'un jour elle se refermerait ou un jour on songerait à la refermer. Donc effectivement, c'est ça. Il y a quelque chose dans le documentaire qui permet d'accueillir ce que le réel vous offre.
Vous êtes le type qui est parti, qui est devenu réalisateur, qui est parti dans le sud. Vous n'êtes pas forcément le bienvenu quand vous revenez.
Alors c'est toujours difficile de revenir avec cette idée que certains puissent imaginer qu'on est là pour faire une expertise. Moi, le ton du film, c'est pas du tout ça. C'est pas un regard surplombant sur la ville, mais c'est justement dans le dispositif montrer que j'ai un récit à offrir, un récit de mon expérience là-bas, et ce récit, je le mets en partage avec les autres. Et c'est ce qui permet justement que les autres, à leur tour, me livrent quelque chose de leur expérience et de leur quotidien.
Mais quand vous revenez, vous êtes en colère?
Non, quand je reviens, j'ai surtout besoin de m'apaiser. Je crois que le mouvement du film, c'est un mouvement d'apaisement et de réconciliation, parce que je comprends que on a des choses partagées. Il y a quelque chose d'un dénominateur commun qui est cette honte, et en même temps la honte. Faire le récit de la honte, c'est important parce que ce qui la nourrit, cette honte, c'est une profonde injustice, parce que on n'a pas à avoir honte du milieu dans lequel on est né, on n'a pas à avoir honte de sa culture, on n'a pas à avoir honte effectivement. De vivre là et de subir les conséquences d'un état de fait, d'une crise économique. Donc à un moment il faut la dépasser, cette honte, non pas pour aller vers la fierté, parce qu'il n'y a pas de fierté à avoir non plus, mais faire le récit des choses, c'est important, un récit des faits et pas un récit émotionnel. C'est qu'à un moment il faut se souvenir de ces expériences pour pouvoir comprendre la situation actuelle.
Mais question périphérique, cette éducation que vous avez eue, c'était aussi une richesse pour vous parfois ou pas après?
Mais bien sûr, je crois que tout le film nourrit ce discours, c'est que mon héritage, il est là, évidemment, il est profondément ancré à cette région, à ce qui m'a été transmis, mais peut-être au-delà des objets. Je crois qu'il y a cette séquence, moi, qui me bouleverse toujours, qui est la séquence avec mon père, qui dit regarde ces arbres, regarde comme ils sont beaux. Cet héritage, il est là, il est dans cette poésie, et finalement les objets, l'héritage, c'est ce qui vraiment sépare la pensée de droite et la pensée de gauche, c'est qu'à un moment, on n'est pas égaux face à l'héritage. Donc effectivement, sur la ligne de départ, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'injustice, et Flavia me dit, et ça répond à cette tribune.
Flavia, c'est votre amie qui est devenue directrice d'école.
Voilà, qui me dit, toi, tu as un pavillon, tu as ce lieu de commémoration. Eux n'ont plus rien parce que la cité, elle a été tout simplement rasée. Donc effectivement, le cœur du film, c'est vraiment la question de l'héritage et de la transmission.
Une population qui se sent abandonnée.
Beaucoup de gens sont probablement troublés aussi par l'évolution de la situation. On ne la comprend pas. Catastrophe après catastrophe, hein, puisque maintenant on voit les maisons ne valent plus rien, tout est à vendre. Il y a là une espèce de stupeur. Où ça va s'arrêter, ça? on a l'impression d'être abandonné, d'avoir été exploité, d'avoir servi lorsqu'on en avait besoin. On laisse en plus un héritage dévalorisé, c'est-à-dire que l'extraction charbonnière est terminée, on a un sous-sol catastrophique. Nous avons un gruyère sous nos pieds.
Les houillères. Les houillères qui nous ont donné du pain et qui l'ont enlevé aujourd'hui. Ils ont laissé les gens sur le carreau, ils ont laissé tout le monde. Ceux qui sont décédés, ceux qui sont remplis de silicose. Et puis tous les cols blancs et tous les nantis aujourd'hui ben, sont bien. Ils ont des pavillons dans le sud de la France maintenant. Des bons petits bourgeois. Ouais. Vive les cols blancs, des houillères. On peut leur dire merci. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui que voilà. Tout est mort. Le seul à avoir profité du gâteau, qui était la mine, et d'avoir croqué sans avoir pensé au lendemain. Ils ont eu une boulimie de profit. Et les petits, ben voilà, les petits ont payé les pots cassés. Aujourd'hui, ils se battent pour reconnaître leur maladie professionnelle. C'est tout ce qui leur reste.
Ça, ce sont des propos, Régis Soder, mais il faut bien souligner que, parallèlement, vous filmez cette ville qui est dead zone, enfin c'est un truc effrayant. Les images parlent toutes seules, les boutiques ferment, les locaux partout sont à vendre ou à louer. C'est comme un... Enfin, ça fait froid dans le dos. Et en même temps, c'est pas que Forbach, il y a plein de villes comme ça en France qui
c'est
subissent...
C'est la France périphérique, hein, celle que décrit Régulier, hein, c'est exactement ça. On a l'impression d'une sorte de concrétisation de ce que dit Gulli sur cette France-là.
Vous n'avez rien exagéré avec votre caméra.
Il y a un contexte économique qui est effectivement un contexte dramatique, parce qu'après, à la fermeture de la mine, c'est une mono-industrie qui s'écroule et une crise qui vient encore accentuer les difficultés de la ville. Encore une fois, c'est vrai à Forbach, mais c'est vrai à De Casseville, à Alès, dans plein de territoires. Néanmoins, dans le film, il y a évidemment ce constat, cette toile de fond, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a effectivement des gens qui se battent, qui vivent, qui résistent, et surtout, il y a pour moi, cette nécessité de faire le récit de la ville. L'histoire du film, ça commence par l'histoire. Et là, j'étais très ému d'entendre encore les paroles de Jean-Claude Flaus, qui était un peu l'historien local qui est mort depuis. Oui. Parce que c'est important de rappeler l'histoire. Et en rappelant l'histoire, on peut mieux comprendre le contexte actuel et pourquoi, effectivement, on en arrive à ce sous-sol miné avec le parallèle avec l'amnésie, parce que les choses n'ont pas été mises en récit. Et le cinéma sert à ça, c'est raconter des histoires et ancrer le cinéma dans l'histoire. Le cinéma documentaire, ça m'a semblé important à cet endroit-là.
Par exemple, il y a eu une rue Adolf Hitler à un moment à Forbach.
C'est ça, la rue nationale qui s'appelait Adolf Hitler Strasse. Il faut rappeler ça parce qu'à un moment, ça nous raconte quelque chose du nationalisme, ça nous raconte quelque chose de cette histoire que la ville a eu du mal à traverser. Et il y a effectivement la nécessité de travailler parce que c'est cet héritage. Et cet héritage, il faut composer avec pour pouvoir avancer. Et en connaissant évidemment son histoire, on peut mieux comprendre et affronter une situation qui effectivement est difficile. Mais néanmoins, je tiens à le préciser, il y a beaucoup de beauté dans la ville et dans le film parce qu'il y a ces gens qui sont là et qui énoncent des choses avec une parole qui est forte.
Question bizarre, mais vous n'avez pas pensé à aller rencontrer des gens qui avaient voté pour le FN ?
Alors pour moi, c'était très important à un moment de pas incarner cette personne-là, stigmatiser la personne qui va voter.
Pas stigmatiser, mais la rencontrer.
Ne pas opposer les citoyens de Forbach les uns aux autres. Pour moi, c'était très important d'une part parce que cette parole, on l'entend beaucoup. Et moi, je voulais justement aller à la rencontre des gens que j'ai connus dans mon enfance et voir à quel point la situation de la ville impacte aussi leur quotidien. C'est-à-dire comment on fait pour vivre avec, comment on fait pour vivre avec cette situation où Forbach, c'est une ville qui a toujours eu une tradition d'accueil, qui a accueilli des populations d'Italiens, de Polonais, de Maghrébins. Et aujourd'hui, il faut vivre avec ça, malgré les tensions.
Mais je suppose qu'il y a des gens de votre enfance qui votent peut-être FN maintenant.
Mais tout à fait, c'est tout à fait possible. Encore une fois, moi, ce qui m'intéressait, c'était plutôt de savoir comment on composait avec cette situation-là et de ne pas, finalement, le contexte, l'explication de pourquoi aujourd'hui ce vote s'exprime
c'était
à Forbach.
C'était pas le sujet, c'était pas votre propos.
Mais en tout cas, je crois que le film donne des pistes pour comprendre d'où vient ce sentiment d'abandon et l'expression de ce sentiment dans les urnes. Je crois qu'il faut rappeler quand même qu'à Forbach, le premier parti, c'est l'abstention. La plupart des gens ne votent pas parce qu'ils ne se sentent plus concernés par la représentation nationale.
Et qu'en même temps, le maire actuel est PS. Hein,
et que le maire actuel, effectivement...
Et d'origine polonaise.
Et d'origine polonaise. Ouais. Et moi, je dis toujours, et le film accompagne ce mouvement d'espoir, que dans 15 ans, je parie que le maire sera d'origine turque. Il y a énormément de Turcs à Forbach. Et on le voit à Londres.
Exactement.
C'est ça. Ouais. C'est ça l'espoir de la ville. C'est le renouvellement de ces populations, comme ça a toujours été la tradition à Forbach.
Alors, il y a des héros, effectivement, à Forbach, comme votre amie Flavia. C'est une véritable héroïne. Elle est désormais directrice de l'école.
Économiquement, ça a été très, 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 très difficile. On n'a pas mangé tous les jours à notre faim, comme beaucoup de familles au Kobenberg. On nous a souvent coupé l'électricité. Et alors ça, c'était un drame pour moi, parce que, tu sais, quand je rentrais du collège ou du lycée et que... J'apercevais pas de lumière chez moi. Je me disais, bon, ça y est, on nous a encore coupé l'électricité. Et du coup, comment est-ce que je vais faire mes devoirs, quoi? J'avais l'impression d'être toujours, d'être la plus nulle de tous. Et ça m'a poursuivi longtemps. Quand on est pauvre, on se sent nul. En tout cas, nous, on a toujours eu honte, tu vois. Et moi, je l'ai senti terriblement, cette... Je sais pas, toi, tu appelles ça cette domination. Moi, c'était plutôt le regard des autres. Je m'étais sentie écrasée par cette misère sociale. Que de tout petit, déjà, tu dois te justifier, tu vois, que t'es pas comme tout le monde, que toi, t'es pauvre, en fait, c'est ça. C'est d'assumer cette pauvreté-là. C'est difficile, tu sais, Régis, parce que j'ai l'impression que c'était quelque chose que je voudrais qu'on coupe.
Oui, Flavia, entre les lignes, elle évoque le déterminisme social. C'est dit dans le film, le bon élève continue ses études, vous, l'autre ira à la mine, enfin c'est à l'époque, et les filles seront vendeuses au supermarché.
C'est ça, c'est ce verdict social qui s'impose et qui s'impose, qui continue de s'imposer. Hein. Il y a une séquence où il y a un gamin comme ça qui est questionné par une autre personne que j'ai rencontrée là-bas, Sandrine, qui lui dit « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et il dit « médecine », mais il rigole presque gêné d'avoir osé dire médecine parce que effectivement le verdict est déjà posé, il a 10 ans et ça ne lui est pas destiné, malheureusement. Et je crois qu'il faut entendre ça pour pouvoir prendre en compte cette dimension du verdict social. Alors quand on est très loin de Forbach, on se rend plus compte à quel point c'est encore très présent. Et effectivement, ce qu'on observe à Forbach, c'est la disparition d'un décryptage de classe au profit d'un décryptage communautaire qui, évidemment, profite à certains. C'est beaucoup plus simple d'opposer les communautés les unes aux autres, alors qu'on est vraiment, là encore, dans un découpage avec les plus démunis et ceux qui auront la chance de pouvoir partir ailleurs faire leurs études.
La situation que vous décrivez, elle est exactement identique dans la ville que vous habitez par ailleurs, qui est Marseille.
Mais bien sûr, à Marseille, on retrouve des dominantes comme ça, dans des quartiers qui ont été complètement abandonnés, qui sont les quartiers nord de la ville, et où effectivement c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué. Dans Nous, Princesses de Clèves, déjà, on avait ce sentiment d'impossibilité, alors même que l'intelligence s'exprime, que la pensée s'énonce, dès lors qu'on donne la parole aux gens. Et dans Retour à Forbach, je crois qu'on a là des témoignages aussi qui nous montre que l'intelligence n'est pas toujours là où on croit qu'elle est et qu'il convient d'écouter, de donner la parole à ces gens.
Il sort ce film avant les présidentielles, c'est pas un hasard, j'imagine.
Je crois que le cinéma, c'est aussi et à l'ACID, qui est l'association du cinéma indépendant pour sa diffusion. On lutte pour la présence de ces films en salle, parce que la salle, c'est le lieu qui est ouvert 7 jours sur 7, c'est le lieu du débat, c'est le lieu de l'échange. Moi, je vais accompagner ce film tout au long d'une tournée à travers toute la France. Et oui, je crois qu'il peut participer au débat et presque, j'ai envie de dire, oser le débat. C'est un petit film avec des grandes idées, et c'est mieux qu'un grand film avec des petites idées. l'idée.
D'accord.
C'est un acte militant.
Non, c'est pas un acte militant. C'est un cinéma politique au sens noble du terme, parce qu'encore une fois, c'est quelque chose de qui se construit dans le collectif. C'est un échange de paroles avec ces gens que j'ai retrouvés et qui propose une représentation qui n'est pas un instantané comme le produit souvent la télé et l'actualité, mais une représentation de la ville qui est nourrie, encore une fois, de l'histoire et de la pensée qui est à l'œuvre dans le film.
Je crois qu'il y a un besoin de nommer les choses en ce moment, de les nommer clairement.
Oui, c'est important parce qu'il faut identifier où sont les mots pour pouvoir savoir comment les soigner, mais soigner vraiment au sens de l'accompagnement et pas du pansement, pas d'un coup de peinture, voilà, pour effacer une misère qu'on n'a plus envie de voir.
D'ailleurs, la politique n'est pas omniprésente. Je sais plus qui dit dans le film, quand il y a une victoire où les gens sortent dans la rue, c'est surtout pour le foot.
Bah c'est ça, l'expression de la joie, à un moment, c'est ce soir de match pour l'Euro 2016. Et moi, en même temps, j'y vois de la joie. Ça n'a pas été évident pour moi de filmer ces supporters de foot, parce que comme vous avez pu le comprendre, j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Et en même temps, j'y ai vu ce que j'ai pu voir à Beyrouth. Il y avait quelque chose de très oriental dans cette séquence. Et qui, pour moi, est pleine de joie et pleine de jeunesse. Et la jeunesse, elle est là, présente à Forbach. Elle a envie d'avoir les mêmes droits, justement, d'avoir droit, effectivement, de rêver un peu.
Justement, jeunesse, éducation, école, parce que tout commence là.
Pour les demandes de bourse, je suis assez estomaquée parce que c'est souvent zéro revenu, quoi. Souvent zéro revenu. On se rend compte que la scolarité de leur enfant n'est plus une priorité. Parce qu'il faut les faire manger, parce que peut-être il y a des huissiers, parce que il y a le chômage depuis longtemps, il y a de la maladie, il y a de la violence conjugale, il y a plein de choses. Ça, je vois tout, c'est mon quotidien, je vois ça tous les jours, quoi. C'est difficile après de focaliser sur la scolarité de l'enfant parce qu'il y a tellement d'autres choses. Quand on arrive en classe, on leur propose des problèmes de maths ou on leur propose de la géométrie, de la grammaire. Elles s'en fichent. Je dis, voilà, mais moi je m'en fiche. Ça me sert à quoi? J'enseigne de l'histoire. Non, mais madame, l'histoire, ça sert à rien. Bah, oui. Si, ça sert à savoir pourquoi on en est là, etc. Mais, donc voilà, c'est compliqué d'enseigner à l'heure actuelle. Très compliqué.
C'est un peu désespérant ce constat, Régis Soder.
Non, je crois que c'est un constat lucide, et il faut être lucide justement encore une fois pour affronter les choses. Et je vois que le film, il est nourri de l'espoir de voir ces gens-là, de voir Sandrine qui est là auprès des mamans dans ses cours d'alphabétisation, de voir Flavia qui est là tous les matins à l'école. Il y a des gens qui combattent, il y a des gens qui résistent, et ça c'est beau. Moi, ce qui m'émeut le plus dans le film, c'est justement ces actes de résistance, c'est le collectif qui malgré tout est toujours à l'œuvre.
Vous n'avez plus de maison à Forbach, donc vous ne votez plus à Forbach.
Non, je ne vote plus à Forbach.
Vous votez à Marseille.
Je vote à Marseille.
Oui, il y a un autre combat. Ça s'appelle Retour à Forbach. Ça sort
allez
mercredi,
le voir, vraiment.
Mercredi prochain, vous restez avec nous, bien sûr. Elle, c'est une révolution, celle du printemps arabe, qui l'a poussée à filmer, à réaliser son premier film, Je danserai si je veux. Maïsaloun Hamoud raconte l'histoire de ses trois destins de jeune femme palestinienne à Tel Aviv, trois colocs, comme dans un sitcom, sauf que les enjeux sont graves. Une avocate rebelle et libre, une musicienne homosexuelle, une femme voilée, étudiante à la veille d'épouser un religieux choisi par son père. Une quête pour la liberté et l'affranchissement à travers un film plein d'énergie, de désir, de révolte, tout comme sa réalisatrice, jeune, enthousiaste, combattante, Maïsaloun Hamoud, traduite par Fatima Cherkaoui.
من عمر سنين وسنين دقت كتير كتير وقليل عليك
Bonjour Maïsaloun.
Bonjour.
Ce film a été provoqué par votre réaction au printemps arabe. C'est après ça que vous avez décidé d'écrire cette histoire.
Le printemps arabe a eu un véritable impact sur nous. C'est-à-dire qu'on a eu une volonté de faire entendre une autre voix, une voix différente, et de proposer des sujets et des tabous qui n'existaient pas auparavant, qu'on n'osait pas évoquer au préalable.
Comme
L'homosexualité,
par exemple, est parmi les tabous. C'est aussi l'harcèlement sexuel, la violence sexuelle. Également, c'est-à-dire d'avoir des relations sexuelles avant le mariage, la virginité, tous ces sujets qui sont parmi des tabous, des sujets dont on ne parlait pas et dont on ne parle pas jusqu'à ce jour.
Donc avec un film, vous voulez bousculer toute la société patriarcale ?
Of course.
Oui, bien sûr. La société patriarcale, c'est une société de mâles, les mâles qui dominent depuis toujours. Et j'imagine que le monde... Le monde donc a prouvé que cette situation n'est pas une situation qui est capable de perdurer. Les femmes sont plus que la moitié de la population. La femme a une place qu'elle devrait donc occuper. Et il faudrait changer la réalité actuelle.
Vous avez reçu une fatwa qui est quelque chose qui est très rare pour... Pour quelqu'un comme vous, et ça n'était pas arrivé depuis 70 ans, finalement.
Un gel.
En effet, ça s'est produit.
Ça vous fait rire?
Parce que c'est ridicule. Franchement, ils ont laissé de côté tous les sujets importants et à cause d'un film, ils prononcent une fatwa. Mais en même temps, c'est presque un honneur pour moi. Ces personnes qui étaient donc contre ce film, ces personnes sont des hommes qui dominent. Qui domine la société. Mais lorsque les filles sont arrivées, effectivement, ont essayé de faire bouger le système, et ils ont eu peur que l'on change les mentalités, la mentalité des filles et des femmes. Et donc, c'est ça, ils ont eu très peur.
La solution va venir des femmes.
Oui, la solution,
qu'il
y ait une solidarité entre les femmes afin qu'elles puissent changer les choses. Il faudrait comprendre que si nous sommes solidaires, nous allons constituer une grande force. Il y a beaucoup d'activisme et cela nous permettrait dans l'avenir de prendre des décisions et d'avoir la même mise sur les choses qui nous concernent directement. Et il ne faudrait pas donc laisser les hommes décider à notre place.
Mais vous êtes produit par une société israélienne.
Si.
Il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème là-dessus, car en effet, personnellement, je suis palestinienne et je suis citoyenne israélienne et je paye mes impôts, je paye normalement mes impôts et ces impôts vont dans le budget du gouvernement. Le gouvernement qui est raciste et qui nous constitue 20% de la population israélienne, nous sommes donc des Palestiniens et nous ne bénéficions pas des mêmes privilèges. Nous vivons toujours sous un régime raciste et nous n'avons pas les mêmes droits que les Juifs israéliens.
Et
ils ne vont pas donc me faire de faveur. Il s'agit là de mon droit le plus important. Absolu. Et en tant que minorité, nous ne bénéficions pas de nos droits. Mais je n'ai pas donc de problème si c'est une société israélienne qui produit mon film.
Mais c'est vrai qu'il est votre film, il a une forme apparemment légère en parlant de choses très graves. Il est aussi très attractif, il a une forme très pop, très moderne. et
avec Shlomi Kabetz que j'aime beaucoup, c'est le producteur du film.
My love.
C'est mon amour.
Yeah, c'est mon amour.
Toujours
le
mor. Nous appelions ce film un film amer, mor, yani.
Mlabas, le halwa le mor.
Ah oui oui, c'est salé sucré en même temps.
Yeah, لانه زي البونبون.
C'est comme un bonbon.
بس لما you will chew it.
Doux et acide, c'est comme un bonbon.
بتحس انه في كمان
et quand vous donc craquez le bonbon, vous sentez qu'il y a une amertume à l'intérieur.
Je danserai si je veux de My Saloon Hamoud. Régis Soder, vous avez eu le temps, merci pour nous de regarder ce film. Qu'en pensez-vous ?
Je trouve que c'est très fort de l'entendre et de voir son énergie combative. Et cette énergie, on la retrouve dans le film. Il y a quelque chose qu'elle transforme de façon cinématographique avec cette histoire de solidarité entre femmes et cette idée qu'à un moment, effectivement, elle le dit très bien, il faut combattre ces archaïsmes. Et c'est vrai en Israël, en Palestine. Et évidemment, on le retrouve ici. Je crois que le combat, c'est un combat qu'on mène tous à travers les films, à travers les livres. Et je trouve que cette énergie perceptible là dans votre entretien, on la retrouve vraiment dans le film. Et ça, c'est très joyeux.
C'est vrai que cette énergie de femme, on l'avait l'habitude de voir dans le cinéma libanais, par exemple chez Nadine Labaki, mais beaucoup plus rarement dans le cinéma palestinien, non ?
Et je trouve que c'est très bien que les films, c'est ça, faire un film sur Forbach, depuis Forbach, faire un film sur cette société palestinienne en Israël depuis cet endroit-là, c'est très juste et c'est très fort.
Il faut rappeler juste que c'est un film produit par un Israélien progressiste, oui. Fait par une arabo-palestinienne qui a une fatwa sur le dos. Ouais. Si la vie était aussi belle que ça, ça serait formidable.
Ouais, c'est très juste. On se retrouve pour les sorties après Alexandra Savior, Mirage. Violet was tickling my fancy. Gives out just the right amount of soul. I wonder if it makes me sound too old. Decided that a Stella or a Candy seems as if I'm spinning down a pole. Swept them over to the stack of notes. Bunch of times before. An inch away from settling on cold gold. Shame that she's that girl you used to know. Loved it, but we had to let it go. Of a casino, push me down another rabbit hole, touch me like I'm gonna turn to gold. She's almost like a million other people that you'll never really get to know, and it feels as if she's swallowing me whole. Question fatidique, Laurent. Qu'est-ce qui a marché ce mercredi au milieu des vacances et de ce flot de films?
Eh bien, en pole position, c'est le cas de le dire, Fast and Furious, suivi de The Young Lady, et puis c'est beau la vie quand on y pense.
Ah, voilà. The Young Lady en deux, c'est bien ça.
Oui, ça c'est très bien. Oui, vous avez bien remarqué l'intérêt de ce palmarès, c'est effectivement la deuxième position.
On va commencer par ce doc, on y a consacré l'émission de la semaine dernière, mais oui. Enthousiasmant, à voix haute, la force de la parole de Stéphane de Freitas, initiateur d'Eloquentia qui vise à élire depuis 2012 le meilleur orateur du 93. Freitas a suivi et filmé il y a 2 ans la préparation et le concours Portrait subtil de cette jeunesse des banlieues qui découvre le pouvoir de la parole, celui de changer le regard. Un film positif mais pas mièvre du tout, où l'on découvre au-delà de l'éloquence une ouverture sur les autres, une bienveillance qui fait du bien. Énergie, humour, espoir, un témoignage à contre-courant de ce qui se filme d'habitude sur la jeunesse des banlieues, n'est-ce pas Laurent ?
Oui, j'aurais une toute petite réserve, parce que comme ça, sur la musique qui prend une place envahissante, mais bon, c'est rien, c'est pas grand-chose.
Voilà. Attention, grand film qui sort enfin, puisqu'il reste inédit en France, c'est Taipei Story d'Edouard Yang. Si on voulait résumer un peu à la hache, on dirait ou comment un licenciement brutal peut casser une histoire d'amour.
Oui, c'est sur le papier, c'est ça, et c'est bien ce que raconte effectivement ce qui était le deuxième long métrage d'Edouard Yang, dont le succès taïwanais Yiyi, on se souvient ça. Mais il est mort en 2007 à l'âge de 59 ans, donc une carrière brisée nette. Il est littéralement adulé, il faut le rappeler, par Martin Scorsese. Alors ce film de 1985, il y a la quintessence de tout son cinéma à venir, puisque c'est, je vous rappelle, son deuxième film, avec notamment, effectivement, cette métaphore sur Taipei, cette ville qui est en train de se métamorphoser entre le passé et l'avenir, entre la tradition et la modernité. C'est cette histoire que raconte le film, avec dans le rôle principal masculin, petit clin d'œil, quand même un cinéaste qu'on connaît, qui s'appelle Wuxia Wuxian, oui. C'est le héros du film, et ça c'est aussi très intéressant. Non, c'est un film d'une subtilité rare, d'une intelligence incroyable, et il faut aller le voir, parce que c'est inédit. On a dit que c'était une ressortie, c'est pas du tout une ressortie, on ne connaissait pas, le public français, nous ne connaissions pas ce film, qui, je le rappelle, s'appelle Taipei Story, à voir vraiment de façon très pressante.
The Young Lady, dont on disait donc deuxième au box-office du mercredi, un premier film signé William Oldroyd. Il vient du théâtre, l'histoire est tirée d'un roman russe inspiré par Shakespeare, 1865. Angleterre rurale, Catherine mène une vie malheureuse d'un mariage sans amour avec un lord qui a 2 fois son âge. Un jour, elle tombe amoureuse d'un jeune palefrenier qui travaille sur les terres de son époux et elle découvre la passion. Habitée par ce puissant sentiment, Catherine est prête aux plus hautes trahisons pour vivre son amour impossible, ou comment une innocente jeune fille va se transformer en meurtrière. Un film cruel, sec, puissant, austère, rigoureux, un drame de la passion, un anti-sorbonté. Un peu entre Emma Bovary, Lady Chatterley ou Lady Macbeth, Laurent.
Oui, c'est ça, c'est effectivement Bovary plus Chatterley plus Landru. Enfin, on n'y aurait pas trop, mais il y a un moment où elle devient vraiment de cette victime qu'elle était, et quelle victime, elle devient un bourreau, et quel bourreau. C'est là où tout l'intérêt du film, c'est cette espèce de bascule, c'est ce moment où les choses changent. Pourquoi change-t-elle? Comment change-t-elle? Avec un portrait au scalpel qui est vraiment très très dur, très âpre, vous le disiez. Et c'est pas du tout un mélo comme je l'ai lu par-ci par-là, ça n'a rien à voir avec un mélo, c'est au contraire un très très grand portrait de femme, vraiment.
Avec une super actrice qui s'appelle Florence Pug.
Exactement.
Lettre de la guerre du portugais Ivo Ferreira, un jeune médecin portugais, soldat pendant la guerre coloniale en Angola entre 71 et 73, envoie à sa femme des lettres d'amour poétiques, sensuelles, passionnées. Ce jeune homme en train de devenir écrivain, c'est Antonio Lobo Antunes, dont 280 lettres ont été publiées en 2005.
Voilà,
et elles inspirent ce film.
Exactement, le film est le reflet très fidèle, très scrupuleux de ce premier travail d'écrivain de quelqu'un qui alors était médecin et qui fait cette sale guerre de l'Angola, qui va écrire à la femme qu'il aime des lettres effectivement sublimes. Au cinéma, ça donne des lettres, et je trouve que c'est une très bonne idée, lues non pas par une voix masculine, donc pas par le scripteur, mais par par celle qui les reçoit, donc par la femme aimée, celle qui les reçoit. Et ces lettres disent bien plus, évidemment, que la simple, si on peut dire, la simple langue amoureuse. Il y a aussi une description de la guerre, de ses horreurs, et puis il y a aussi la naissance d'un écrivain. Et c'est ce mélange des trois choses est tout à fait passionnant, tout à fait miraculeusement préservé au cinéma, je dirais, sublimé par les images, et le texte de Lobo Antunes reste à l'oreille, et de façon très très belle. C'est un magnifique poème, tout en noir et blanc, poème d'amour, de guerre et de mort.
Pardon, parenthèse, Régis Sodère, mais ça aurait pu être un livre, votre film ? Retour à Forbach.
Ça aurait pu être un livre. Il s'inscrit dans un sillon comme ça qui a été creusé par Didier Ribon avec Retour à Reims, ouais. Par Annie Ernaux, ouais. Avec Retour à Isto. Ouais, ça aurait pu être un livre. Mais il y a des images et les images, elles racontent quelque chose aussi.
Bien sûr, c'est du cinéma. Mais voilà, je pensais à ça par rapport à ce film. L'homme aux mille visages de l'Espagnol Alberto Rodriguez. Quelle histoire ! Francisco Paeza, ex-agent secret espagnol, est engagé pour résoudre une affaire de détournement d'argent risquant d'entraîner un scandale d'État. L'homme, Laurent, y voit l'opportunité de s'enrichir, tout en se vengeant du gouvernement qu'il a trahi par le passé. Débute alors l'une des plus incroyables intrigues politiques et financières de ces dernières années. L'histoire vraie d'un homme qui a trompé tout un pays et fait tomber un gouvernement.
Oui, c'est l'histoire du gouvernement du socialiste Felipe González, qui s'est écrasé dans une histoire de corruption incroyable. Alors, le réalisateur de La Isla Mínima nous avait déjà habitués à des scénarios, on va dire, très très travaillés. Là, je dirais qu'il est presque trop travaillé. C'est peut-être la faute de la réalité, mais en même temps, c'est pas un documentaire. Donc, il aurait pu quand même essayer. Mais est-ce que c'est parce que nous sommes français et qu'on connaît mal cet épisode espagnol ? Mais moi, j'avoue que je me suis perdu. Au bout d'un moment, je ne comprenais plus rien de ce qui m'était raconté. Et c'est un tout petit peu embêtant quand même quand il s'agit d'une histoire réelle, quand il s'agit de politique, de finance, de corruption. C'est-à-dire qu'on a l'impression effectivement d'être devant quelque chose qui est une machine absolument folle, où la vérité et le mensonge se côtoient tout le temps, mais moi, spectateur, j'ai eu l'impression aussi, hélas, de décrocher de cet homme aux mille visages.
Pas comme des loups de Vincent Poupelard, ça c'est un drôle d'objet, un doc certes. Oui, je sens mais qui voudrait s'en échapper par une posture poétique. L'histoire de deux frères jumeaux, Roman et Siffredi, que Poupelard a suivi au gré de leur marginalité. Lieux secrets, squats, souterrains, écoles désaffectées et finalement forêts, dans la deuxième partie plus réaliste du film. On ne saura rien de ce qui les a amenés là, secrets familial, pénitentiaire, social, puisqu'ils veulent, eux, se réinventer autrement avec leur propre langage, essentiellement axé autour de l'idée de liberté hors système. Comme ce film, écrit comme un poème libertaire, comme une ode à l'exclusion, un geste artistique, radical, une utopie.
Oui, alors moi je dois dire que c'est un film qui m'a foutu le bourdon. Mais alors j'ai eu du mal, vraiment j'ai trouvé d'une amertume, d'une noirceur, d'un noir c'est noir. Il n'y a aucun espoir. Et j'avoue que la dernière scène que je ne raconterai pas, qui met en scène les deux frères jumeaux. Là j'ai senti qu'on basculait peut-être un petit peu trop dans une sorte de voyeurisme de deux individualités, deux singularités. Dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'effectivement
c'est
elles sont
préférée.
En décalage. Oui, ben voilà. Oui. Mais justement, pour moi, c'est quasiment une scène de comédie et je ne vois pas trop ce qu'elle vient faire là-dedans. Mais écoutez, je pense qu'il faut aller voir ce film et vous faire vous-même votre idée, Pas comme des loups, de Vincent Poupelard. Voilà.
Autre petite rareté, parce que très 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 peu distribué, il faut bien le signaler, ouais. Laurent. C'est La Belle Occasion, réalisée par l'actrice Isil Lebesco, dans laquelle elle joue d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que ce sont trois forains qui entrent dans l'existence de Mathilde. Mathilde, c'est elle, une héritière qui vit un peu à l'écart de la ville, dans une belle propriété posée en pleine nature.
Oui, c'est le nouveau film très très séduisant à mes yeux, dit Lebesco. Alors, vous le disiez, il est très peu distribué. Ouais. Mais au fond, la position du spectateur, ça doit pouvoir être certainement de revendiquer auprès de son exploitant de salle habituel le fait de programmer un film. Et vraiment, allez voir votre exploitant, demandez-lui de pouvoir voir La Belle Occasion. Parce que cette histoire de sœurs et de frères est parfaitement maîtrisée par Lebesco. Ce qui est très étonnant, c'est que le deuxième personnage féminin auquel vous faisiez allusion ressemble presque comme deux gouttes d'eau à Lebesco. Or, elle va avoir des relations charnelles avec le frère, puis avec la sœur. soeur d'abord, puis avec le frère ensuite, c'est dire si les choses sont vénéneuses, à souhait, troublants, cinglants, et avec, en ouverture et en fermeture du film, deux clips musicaux vidéo qui sont à tomber. Donc franchement, s'il y aurait un film à distinguer qui n'a pas beaucoup de chance en ce moment, c'est la belle occasion, réclamez-le dans vos salles.
Un tout petit mot, et après on passe au cadeau pour Régis Soder, et bienvenue au Gondwana. Gondwana, c'est un pays imaginaire?
Oui, c'est un pays imaginaire, on aurait aimé adorer.
Tout est tard de l'Afrique, c'est ça?
Oui, ce film d'un ancien du Jamel Comedy Club, seulement voilà, c'est très lourd, très fatigué, très naïf aussi, avec des personnages tellement caricaturaux de la France-Afrique ou de l'Afrique tout court, qu'on ne peut pas y croire un seul instant et qu'on ne peut pas rire non plus beaucoup.
Réalisé par Maman.
Oui.
Un cadeau pour vous, Régis Soder, il vient de sortir, il est tout frais, c'est ce film qu'on aime beaucoup.
Voilà, on est heureux de dire à nos auditeurs que Baccalauréat, c'est celui-là de Christian Mounjou, prix de la mise en scène au dernier festival de Cannes de l'an dernier. C'est un petit miracle, un petit bijou de film roumain, comme on les aime, c'est-à-dire qui dure longtemps, mais avec une force, une intensité incroyable.
Vous l'avez vu ?
Merci, merci, non du tout. Je vais le découvrir.
C'est édité par le Pacte.
Voilà. Christian Mounjou qui présidera la Ciné Fondation cette année à Cannes.
On s'en réjouit, parce que c'est quelqu'un de très important.
Merci beaucoup, je rappelle juste que je danserai si je veux. De Maïsalou Namoud est sorti mercredi, allez-y. Et votre film, Régis Soder, Retour à Forbach, sort mercredi prochain.
Allez-y tout autant.
Vous allez signer le générique avec Maïsalou et on vous fait signe.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Sporto Cantès a écrit la musique du générique.
Montréal Perez est la tertiaire de la
cotote. Hugo Combe s'est occupé de la préparation. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Régis Soder, j'y étais.